Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on va décortiquer un document vraiment massif. Imaginons un instant la création d'un texte qui nécessite un investissement colossal, que ce soit en temps, en recherche ou même juste en papyrus précieux. Et tout ça dans un seul but.
Un but très précis, oui. Une vaste opération de défense stratégique.
C'est ça. Sauver une communauté entière de l'anéantissement par l'Empire romain. Et c'est sous cet angle vraiment fascinant qu'on va examiner l'un des textes les plus influents de l'Antiquité, le Livre des Actes des Apôtres. Pour ça, on se base sur la conférence et les recherches très fouillées du docteur Craig Kinner.
Tout à fait. Et la première erreur qu'on fait souvent avec ce texte, en fait, c'est de le lire comme une sorte de recueil de mythes isolés. Alors que, historiquement et littérairement parlant, c'est vraiment Luc, deuxième partie.
La suite directe, quoi. Le premier volume parlait de la fondation du mouvement en Galilée, et là, on suit l'explosion de ce groupe dans toute la Méditerranée.
Exactement. Et pour comprendre cette œuvre, il faut vraiment l'aborder comme un détective sur une scène de crime vieille de 2000 ans. L'auteur a laissé des indices textuels, presque involontairement, qui nous permettent de trouver qui il est, quand il a écrit et quel était son agenda politique caché.
Et justement, le point de départ de cette enquête, c'est une anomalie grammaticale super étrange que les chercheurs appellent les récits en nous.
Oui, c'est très marquant quand on lit le texte en grec. Pendant la majorité du livre, la narration est à la troisième personne. L'auteur décrit les voyages de l'apôtre Paul avec une certaine distance. Il dit « il est allé à tel endroit » ou « ils ont traversé telle région ».
Une narration classique, en somme.
Voilà. Et soudainement, au chapitre 16, lors d'un voyage en bateau au départ de la ville de Troas vers Philippe, la perspective bascule complètement. Le narrateur commence à dire « nous avons cherché à nous rendre en Macédoine » ou « nous avons mis à la voile ».
C'est fou, ça. Donc le narrateur s'inclut d'un coup dans l'histoire, sans prévenir. C'est un peu le même mécanisme qu'un vieux vlog de voyage qu'on trouverait sur une carte mémoire, non?
C'est une excellente analogie, oui.
Quelqu'un filme un groupe pendant des heures, en restant caché derrière la caméra, invisible. Et soudain, bam, la personne tourne l'objectif vers elle-même, fait un petit signe de la main pour dire « Hey, j'y étais !» et repasse derrière la caméra. C'est juste un marqueur de présence.
C'est exactement ça. L'auteur ne s'arrête pas pour faire les présentations. Ce « nous » disparaît d'ailleurs peu après quand Paul quitte Philippe pour réapparaître mystérieusement des années plus tard, précisément quand le groupe repasse par la même ville.
Mais attendez, j'imagine que les chercheurs ont dû se poser des questions. Est-ce que c'est pas juste une technique littéraire, hein ?
Bah, c'est vrai qu'une théorie académique a longtemps circulé là-dessus. L'hypothèse du nous fictif. Certains disaient que dans la littérature antique, utiliser le pluriel pour décrire un voyage en mer, c'était juste une convention stylistique.
Genre pour rendre le truc plus immersif pour le lecteur.
Exactement. Sauf que, eh bien, l'analyse comparative a totalement fait s'effondrer cette théorie. L'écrasante majorité des récits de voyage en mer gréco-romains n'utilisent absolument pas ce procédé. Le grand classiciste Sir Arthur d'Arbinock a même prouvé que l'invention d'une fausse présence, ce faux nous, c'est une pratique inexistante dans l'historiographie sérieuse de l'époque.
D'accord. Donc, les historiens de l'Antiquité ne s'inventaient pas une place sur le bateau juste pour faire joli.
C'est clair. Ce n'est pas une simple épopée dramatisée, c'est un véritable journal de bord fragmenté. Et si quelqu'un tient un journal de bord en accompagnant l'apôtre Paul, on a une méthode imparable pour l'identifier.
Ah, on croise ce journal avec la liste des passagers.
Physiquement présente avec lui. Il suffit de procéder par élimination. Prenons le premier compagnon souvent cité, Aristarque.
Alors Aristarque, est-ce que c'est notre caméraman de mystère ?
Eh bien non, le texte des Actes l'élimine de lui-même au chapitre 27. Lors d'un autre voyage, l'auteur utilise à nouveau le « nous », mais il sépare clairement Aristarque du groupe narratif. Il écrit « nous avons embarqué, Aristarque étant avec nous ».
Ah oui, la grammaire le met de côté. Donc, bye bye Aristarque. Et si on regarde les autres, je crois qu'il y a un certain Épaphras dans l'épître aux Colossiens.
C'est juste, mais là c'est la géographie qui coince. Épaphras était originaire de la vallée du Laïcos. C'était le centre de son univers. Il en était un des leaders. Or, dans le livre des Actes, il y a un silence assourdissant sur cette région.
Aucune mention.
Zéro. S'il avait écrit ce livre, la probabilité qu'il omette totalement sa propre région est proche de zéro.
Logique. Ensuite, on a Démas, si je me souviens bien.
Oui, Mais la deuxième lettre à Timothée nous apprend que Démas a fini par abandonner Paul suite à de profondes divergences. C'est inconcevable qu'il ait passé des années, après cette rupture, à rédiger un énorme texte pour défendre l'héritage de Paul.
C'est sûr. Et Tite ?
Le problème de Tite, c'est qu'il n'apparaît dans aucune des correspondances listant les personnes présentes avec Paul à Rome lors de sa captivité.
Ok, donc si on enlève Aristarque, Epaphras, Démas et Tite, il reste qui ?
Il ne reste qu'un seul collaborateur répertorié dans les lettres romaines qui n'est pas nommé à la troisième personne dans les actes, et c'est Luc.
Luc. Et le truc fascinant, et c'est là qu'on voit que l'histoire est authentique, c'est la profonde ironie de ce choix. Pourquoi les premiers chrétiens auraient-ils inventé de toutes pièces que Luc était l'auteur ? C'est un personnage super secondaire.
Mais exactement. S'ils voulaient donner une autorité divine à ce texte, ils auraient choisi un grand nom. Pierre, Jacques ou un des 12 apôtres originaux. Luc n'était même pas là au début du mouvement.
Stratégiquement, ça n'a aucun sens de forger un faux avec un nom aussi obscur. Sauf si, eh bien, c'est vraiment lui qui l'a écrit. La tradition ancienne, genre Irénée, Tertullien, est unanime là-dessus d'ailleurs.
Tout à fait. Et ce qui est crucial, c'est que la lettre aux Colossiens nous donne une info en or sur le profil de Luc. Il était médecin.
Ah, le docteur Luc ! Et à l'époque, la médecine, c'était pas vraiment comme aujourd'hui, hein ?
Loin de là, oui. Ce n'était pas standardisé par l'État, il n'y avait pas de faculté avec des examens d'entrée. Le savoir se transmettait par apprentissage. Et c'était un domaine très étrange, un mélange d'observations empiriques brillantes et de trucs complètement absurdes. Le docteur Kinner donne un exemple frappant.
Vas-y, je sens que c'est croustillant.
Certains traités médicaux recommandaient sérieusement des remèdes à base de globes oculaires de rhinocéros broyés.
Oh waouh, d'accord, on est loin des protocoles de santé modernes. Mais au-delà des yeux de rhinocéros, il y a aussi le statut social de ces médecins qui est surprenant.
Oui, ça brise vraiment nos idées reçues. Dans l'Empire romain, l'expertise médicale n'était pas vraiment détenue par l'aristocratie, mais par des Grecs, souvent des esclaves ou des affranchis. Les grandes familles romaines achetaient des esclaves éduqués pour en faire leurs médecins.
Du coup, ça place Luc dans une position super intéressante. Un gars très éduqué, qui maîtrise les sciences et les lettres, mais qui ne fait pas partie de l'élite dirigeante du pouvoir. Et ça, ça se ressent dans son livre, non ?
Absolument. Sa formation intellectuelle transparaît partout. Un médecin antique devait compiler des symptômes, structurer un diagnostic. Luc fait pareil avec ses sources historiques. Et puis, la médecine, c'était un truc urbain.
Contrairement à l'évangile de Marc, qui est très rural, très tourné vers la Galilée, c'est ça ?
Voilà. Le récit de Luc saute de grande métropole en métropole. Antioche, Éphèse, Athènes, Corinthe, Rome. Et il y a un autre détail sociologique majeur, c'est la place des femmes.
C'est vrai, il accorde une importance énorme aux figures féminines par rapport aux autres auteurs de l'époque.
Et c'est logique pour un médecin. La médecine antique était un des très rares domaines professionnels où hommes et femmes interagissaient régulièrement, notamment à cause des sages-femmes et des praticiennes dans les foyers.
Tout s'imbrique parfaitement. Alors, maintenant qu'on a le profil de l'auteur, la question c'est pour qui écrit-il ce pavé ? Parce que produire deux gros volumes sur papyrus, ça coûtait une fortune à l'époque.
Il lui fallait un mécène. Le prologue s'adresse directement à un certain Théophile, et Luc l'appelle « très excellent Théophile ». Ce n'est pas anodin, c'est un titre de déférence utilisé pour la classe supérieure romaine, un patricien très riche.
Et c'est là qu'on a un contraste littéraire incroyable. Le livre hurle haute société romaine par sa forme, mais sur le fond, Luc lâche la critique la plus acerbe de la richesse de tout le Nouveau Testament. Il défend les marginaux, les pauvres, la redistribution des richesses.
C'est très audacieux. Il vise l'élite financière pour leur livrer un message socialement radical. Et pour que ce message passe, il devait maîtriser les codes linguistiques de cette élite.
Un grec très raffiné, j'imagine.
Oui, un grec classique, digne des grands historiens de son temps. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, de vastes portions de son œuvre semblent maladroites en grec pur parce qu'elles calquent la grammaire de l'hébreu et de l'araméen. C'est un grec massivement influencé par la Septante, l'Ancien Testament traduit.
Et le docteur Kinner donne une super analogie pour expliquer ça avec sa propre femme qui est polyglotte.
Oui, sa femme maîtrise 5 langues. Et quand un cerveau baigne dans plusieurs structures linguistiques, les expressions et la syntaxe d'une langue finissent par déteindre sur l'autre.
Donc Luc savait écrire de manière hyper soutenue pour impressionner son mécène, mais son immersion dans les textes judéo-chrétiens faisait ressortir naturellement ce côté sémitique.
Exactement. Ce qui nous amène au genre littéraire. Ce n'est pas un roman, c'est une monographie historique avec une focalisation biographique.
Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'attendre au travail d'un greffier de criminal ou d'un journaliste moderne.
Non. L'historiographie antique, ça marchait différemment. Les historiens sélectionnaient les détails pour illustrer des thèmes majeurs. Certains critiques modernes disent « Ah, le Paul des actes ne parle pas exactement comme le Paul de ses propres lettres, donc c'est un faux récit. »
Mais c'est ignorer comment l'histoire s'écrivait à l'époque. Luc n'avait même pas besoin de lire les lettres de Paul pour écrire son livre. Il le connaissait personnellement. Il prenait les épisodes qui servaient son argumentaire global.
C'est tout à fait ça. Et la nécessité de cet argumentaire nous amène à la question de la datation. Quand est-ce que ça a été figé sur le papier?
Le grand débat. Les années 60, 70 ou plus tard?
Le consensus actuel penche fortement pour les années 70. L'argument majeur, c'est que Luc utilise clairement l'évangile de Marc comme source de base.
Il copie sur son voisin, mais en améliorant le style, non?
Oui, Marc écrit dans un grec très populaire, très brut. Luc reprend les mêmes histoires, mais nettoie la grammaire, utilise un vocabulaire plus médical ou littéraire. Donc, s'il améliore Marc, écrit vers 64, c'est que Luc vient après.
Et il y a cet indice chronologique énorme dans le chapitre 21 de Luc, comparé au chapitre 13 de Marc.
Ah, la prophétie de la destruction. Marc utilise un langage apocalyptique très cryptique. Il parle d'une abomination de la désolation. C'est très vague. Mais quand Luc reprend ça, il décrit carrément Jérusalem encerclée par des camps armés, la population passée au fil de l'épée.
Des termes tactiques et militaires très concrets. Ce n'est plus une prédiction abstraite. C'est le compte-rendu du siège de l'an 70 mené par Titus. Le traumatisme a déjà eu lieu. Donc on est bien dans les années 70. Mais là, je dois vous arrêter, parce qu'il y a une objection logique énorme.
Je vois très bien de quoi vous voulez parler.
Si le livre est écrit dans les années 70, eh bien Paul a été exécuté par Néron vers l'an 64 ou 65. Pourquoi le livre ne raconte même pas sa mort? Le récit s'arrête brusquement alors que Paul est juste en résidence surveillée à Rome, en train de prêcher tranquillement.
C'est la critique classique. Ne serait-ce pas la preuve que ça a été écrit avant sa mort? Eh bien non. C'est imposer nos attentes modernes de la biographie à une œuvre antique. L'analogie parfaite, c'est d'imaginer un historien qui écrit un livre en 1930 sur les causes diplomatiques de l'année 1910.
D'accord, je vois. Son récit s'arrête en 1910.
Voilà. Il sait très bien que la Première Guerre mondiale a éclaté 4 ans plus tard. Mais relater cette guerre n'entre pas dans le cadre de son sujet. Le sujet des actes, ce n'est pas la biographie complète de Paul.
C'est l'avancée du mouvement chrétien jusqu'à la capitale de l'Empire.
Exactement. Paul qui prêche ouvertement à Rome, sans entrave, c'est l'apogée narratif. Ajouter un chapitre sur sa décapitation sous un tyran paranoïaque comme Néron, ça aurait ruiné tout le message.
Surtout que ça aurait cassé le précédent juridique positif que Luc essayait de mettre en place. Et on touche là au cœur du problème, le fameux agenda caché du livre. C'est quoi l'urgence dans les années 70?
L'urgence, c'est la survie. Un quart du livre des actes est consacré à la captivité de Paul et à ses plaidoiries légales devant les tribunaux romains. 25% de ce parchemin hors de prix, c'est de la sténographie judiciaire.
Ça montre bien que le problème principal, c'est la justice impériale. Et de quoi Paul est-il accusé au juste? Pas de théologie, j'imagine. Rome s'en fichait.
Rome s'en fichait complètement. L'accusation redoutable, c'était la sédition. Inciter à la rébellion, troubler la paix romaine, c'est un crime puni de mort.
Et face à ça, qu'est-ce que ferait un auteur maladroit pour protéger son leader? Il cacherait toutes les émeutes, il ferait comme si de rien n'était. Mais Luc fait un choix complètement dingue?
Oui, il documente minutieusement, ville après ville, presque chaque émeute qui a éclaté autour du groupe. Et il le fait pour prouver que, de manière médico-légale, ce n'était jamais la faute de Paul.
C'est magistral. Prenons l'émeute d'Éphèse. La ville est en feu, la foule hurle. Mais Luc montre que c'est organisé par Démétrius, un orfèvre local, qui perdait de l'argent parce que les gens n'achetaient plus ses statuettes en argent.
Voilà, c'est de la pure cupidité économique ou de la jalousie locale. Ce n'est jamais le message de Paul qui incite à la violence politique. Et à chaque fois, les magistrats romains concluent la même chose, cet homme n'a rien fait contre la loi romaine.
Donc, ce livre est en fait une gigantesque campagne de relations publiques, une stratégie de défense pour détourner les accusations.
C'était vital. Paul était le leader de l'intégration des non-juifs, les gentils. S'il était officiellement reconnu comme un dangereux rebelle politique, chaque petite église de la Méditerranée devenait une cellule terroriste aux yeux de Rome.
Elle risquait de se faire rayer de la carte par les légions. Tout comme Jérusalem en l'an 70. Le livre des Actes prouve que, comme Jésus avant lui, Paul était totalement innocent de toute rébellion contre l'Empire.
En résumé, ce livre n'est pas juste un recueil d'histoires spirituelles, c'est un travail historiographique brillant conçu par un médecin éduqué pour légitimer un mouvement marginalisé en pleine crise existentielle.
C'est ça. Comprendre qui écrit et pour quelles raisons précises, c'est le seul moyen de vraiment comprendre un texte historique. Et quand on y pense, ça laisse place à une réflexion assez vertigineuse sur notre propre époque.
Comment ça ?
Eh bien, si les historiens de l'Antiquité utilisaient de petits pronoms « nous » cachés dans des journaux de bord pour valider leurs témoignages au milieu de grandes crises institutionnelles, on peut se demander quelles traces numériques nous allons laisser.
Ah, les métadonnées de notre époque.
Exactement. Imaginons des historiens, dans 2000 ans, essayant de reconstituer notre histoire en ayant pour seule source nos pronoms perdus dans des historiques de navigation, nos vieux emails de groupes professionnels. En analysant ce qu'on a frénétiquement documenté ou justifié en ligne, quelles émeutes modernes ou quelles campagnes de défense secrètes liront-ils entre nos lignes ? Sur cette pensée, gardez l'esprit critique et à bientôt pour une prochaine analyse approfondie.